Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a condamné vendredi les bombardements irresponsables des forces russes qui ont touché la centrale nucléaire de Zaporojye dans le sud de l'Ukraine et a appelé à mettre fin à la guerre. L'OTAN ne veut pas d'un conflit avec la Russie, mais défendre le territoire de ses membres en cas d'attaque russe, a répété le secrétaire d'État américain Antony Blinken à son arrivée à Bruxelles vendredi pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance atlantique. Que cherche réellement l'OTAN à travers l'affaire ukrainienne?
Vous savez, personne n'aime la guerre. En tout cas, les gens sensés, les gens raisonnables n'aiment pas la guerre. Mais en réalité, il y a parfois des guerres qui sont imposées parce que quand vous avez votre sécurité qui est menacée, quand vous avez votre, je dirais, espace stratégique qui est menacé, un pays responsable doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses citoyens et surtout sa projection stratégique afin d'éviter des développements beaucoup plus embarrassantes, sinon plus dangereuses, dans un avenir plus ou moins proche. Et c'est la situation de cette guerre que personne ne souhaitait. Et je pense que M. Poutine a attendu suffisamment longtemps pour voir si les choses allaient changer du côté occidental. Pourtant, il a envoyé, si je veux dire, plusieurs sonnettes d'alarme en disant « maintenant, ça commence à bien faire », en donnant les instructions nécessaires pour que les choses aillent dans le bon sens. Il y avait des discussions, même si les Occidentaux font mine comme si ces discussions n'existaient pas, ou en tout cas, comme si les garanties n'avaient pas été demandées par M. Poutine. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation de crise. Cette crise génère des conséquences indiscutables, c'est-à-dire il y aura forcément des victimes des deux côtés, puisque l'armée russe a fait un point, si j'ose dire, sur ses pertes récentes. Et évidemment, il y aura des pertes du côté ukrainien. Et ces pertes du côté ukrainien, ça va être aussi bien en hommes avec un grand H, parce qu'il y a les militaires, mais il y a également des civils qui pourraient être ce qu'on appelle, intelligemment ou avec moins d'intelligence, pour ne pas dire élégamment, des dommages collatéraux. Ça peut être des femmes, des enfants, des vieillards, mais malheureusement, ce sont les conséquences d'une guerre. Encore une fois, que personne n'aurait souhaité. Aujourd'hui, il n'appartient qu'aux Occidentaux et à l'État ukrainien de décider d'arrêter de jouer, comme ils le font jusqu'à maintenant, y compris jouer le temps mort, puisque les négociations, ils essayent de les rallonger en attendant l'idée que les Occidentaux vont leur fournir des armes, vont leur fournir des aides et vont leur permettre à ce moment-là de résister davantage, en tout cas plus longtemps. Sauf que cette aide a du mal à arriver, en tout cas ne laisse pas transparaître une capacité de résistance suffisamment forte pour faire face à l'armée russe. Et à partir de là, je pense qu'il appartient aux Ukrainiens en premier lieu, mais également aux Occidentaux, au lieu de continuer de passer des coups de fil, comme l'a fait M. Macron il y a quelques jours, pour discuter avec M. Poutine en disant il faut arrêter cette guerre, etc. Eh bien, s'il veut que cette guerre s'arrête, il n'y a qu'une seule chose évidente à mettre en place, c'est de poser les garanties nécessaires afin de rassurer les Russes par rapport à l'avenir, parce qu'ils ont été échaudés par rapport aux promesses vaines qui ont été données par les USA et par les Occidentaux par rapport à l'idée des frontières intangibles des anciens pays de l'Est qui sont devenus du jour au lendemain tangibles et on est aux portes de Moscou. Deuxièmement, que les garanties soient également assurées par rapport à la circulation du gaz, par rapport à l'absence d'un régime qui peut avoir des velléités d'agression à l'encontre de la Russie, puisqu'ils ont annoncé leur volonté d'installer des armes nucléaires ukrainiennes, en tout cas sur le territoire ukrainien. Par conséquent, dire que ce territoire pourrait voir positionner des armes nucléaires, qu'elles soient d'ailleurs ukrainiennes, si tant est que l'Ukraine dispose de la capacité d'installer des armes nucléaires, ou que ce soit les États-Unis ou les Occidentaux, ça veut dire qu'il y a une véritable menace. Et encore une fois, moi, j'ai entendu l'ensemble des responsables occidentaux, pas un seul n'a dit bah, écoutez, nous, on n'est pas intéressé par l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Alors que je pense que cette idée, déjà, si elle est annoncée et déclarée comme quoi il y a un rejet maintenant et plus tard et à jamais de la possibilité d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ça donnerait, si j'ose dire, une lueur d'espoir par rapport à la fin de ces hostilités. Derrière, il y a effectivement les risques qui sont encourus à travers cette guerre. Comme je le disais, il y a des morts civiles, mais il y a également les militaires de deux côtés, mais il y a également des infrastructures. Et parmi les infrastructures, nous avons assisté hier à un incendie qui s'est déclaré aux alentours d'une centrale nucléaire. Évidemment, les Occidentaux ont crié au secours en disant, voilà, c'est presque une bombe qui est en train d'exploser. Quand il y a eu Tchernobyl, ils n'ont pas eu cette réaction. Il a fallu attendre suffisamment longtemps pour dire finalement on aurait un problème, parce qu'à l'époque c'était encore l'Union soviétique. Et là, subitement, alors que c'était un incendie et qui ne touchait vraisemblablement pas la centrale, tout le monde se manifeste pour parler presque qu'on a une bombe nucléaire à nos portes. Ça me paraît un petit peu disproportionné, surtout les appels à Poutine d'arrêter la guerre pour prendre ça comme prétexte pour que tout s'arrête. Je pense que les mesures ont été prises, mais est-ce que aussi des installations telles que des centrales nucléaires sont prises par les militaires ukrainiens comme, je dirais, cachette pour pousser l'armée russe à bombarder ces sites afin qu'il y ait des dommages qui deviendraient à ce moment-là catastrophiques. Je n'en sais rien, je ne suis pas sur le terrain. Il appartiendrait à l'armée russe, en tout cas à la Russie, de faire les déclarations nécessaires par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait un tir par erreur, ou est-ce qu'il y a eu des cachotteries qui ont été faites par l'armée ukrainienne ou par les forces ukrainiennes sur place, ou c'est un incendie volontaire que personne ne peut exclure pour donner l'impression qu'il y a un danger nucléaire dans la zone. Je dois vous avouer que quand on est en guerre, évidemment, toute possibilité existe, et plus particulièrement la possibilité de créer une propagande, et cette propagande pour générer une manifestation, en tout cas une réaction dans la rue occidentale, et aujourd'hui la rue occidentale est chauffée à blanc contre la Russie. Parce que, évidemment, il y a une partie de l'information qui n'est pas donnée aux Occidentaux, et on ne voit qu'un seul méchant, c'est-à-dire M. Poutine, et on le fait passer pour quelqu'un qui est insensé, qui a peur de la tête, ou c'est un dictateur. Les qualificatifs changent en fonction de chaque média, mais il n'en reste pas moins que l'idée est donnée, c'est-à-dire M. Poutine n'est pas respectueux des droits des autres, il a commis une attaque injustifiée et c'est considéré comme une atteinte au droit international, aux traités internationaux, même aux droits humanitaires, parce qu'il ne laisserait même pas passer les civils, alors que, à ma connaissance, à chaque fois qu'il y a eu une opération militaire, il y a eu des couloirs qui ont été ouverts aux civils. Mais bon, des déclarations doivent être données parce que, évidemment, ici, on n'a pas toutes les déclarations qui viennent de Russie. Est-ce que les Russes doivent faire un effort supplémentaire pour communiquer toutes les informations par rapport à ce qui se passe sur le terrain à l'attention des Occidentaux? Je pense que ce ne serait pas inutile. Et en tout cas, que les médias russes et même les réseaux sociaux doivent être dotés d'informations nécessaires au lieu tout simplement de lutter contre les fake news comme cela est en train de se préparer en Russie. Il faudrait aussi promouvoir l'information concrète, documentée et alimentée par les forces sur place afin de donner une idée exacte sur ce qui se passe, que nous n'avons pas affaire à des enfants de cœur qui sont là à attendre de se faire bombarder, mais eux aussi ils bombardent, eux aussi ils peuvent commettre des exactions, eux aussi ils peuvent commettre des actes de guerre. même si en face il y a une armée russe, mais il y a aussi une population russophone dans le coin, dans le Donbass notamment, mais pas que. Et tout ça doit être évidemment documenté et porté à l'attention du public, en tout cas faire l'objet d'une information à l'attention du public, et particulièrement du public occidental, qui est, me semble-t-il, relativement désinformé par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Par conséquent, aujourd'hui, il y a une chose à prévoir, c'est voir quelle sera la durée de ces opérations. Et si on aboutit à une fin, soit par les opérations militaires, parce qu'à un moment donné, il faut en finir, et d'après le président Poutine, les choses avancent dans le bon sens, en tout cas selon le plan qui est donné par le politique, enfin les politiques russes à l'attention des militaires, en tout cas les militaires semblent tenir le calendrier, et derrière, de conclure un véritable accord dans le plus bref délai, afin que ces opérations militaires cessent, mais dans l'intérêt de tous, parce que s'ils se considèrent comme étant les véritables protecteurs de la population ukrainienne, eh bien, il faudrait qu'ils veillent à ce que cette population soit préservée, non pas à cause des opérations militaires, mais à cause du climat général qui règne dans cette zone-là. Et c'est ce climat-là qu'il faudra apaiser et rassurer les Russes par rapport à l'avenir des relations entre les deux pays-là, mais en même temps, à ce moment-là, rassurer la population ukrainienne, comme quoi elle ne risque rien si les opérations militaires devaient cesser, mais à condition de conclure un véritable accord politique durable, pérenne, et qui prend en considération, bien entendu, les craintes, ou en tout cas les interrogations russes par rapport au projet qui était envisagé dans cette zone-là et à l'encontre de la Russie directement, et qui menaçait indiscutablement sa sécurité.